Suivez votre émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, la référence du paiement de facture via le mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Alexis Fricker.
Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez. Appel sur l'actualité, c'est maintenant. Dans une demi-heure, ce sera le débat consacré aujourd'hui à la Cour pénale internationale qui est née il y a 20 ans par son traité fondateur, le Statut de Rome, signé exactement le 17 juillet 1998. Une cour internationale et indépendante créée donc pour juger les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide et aussi crimes d'agression. Et aujourd'hui, nous vous posons la question suivante. La justice de la Cour pénale internationale est-elle efficace? Quel bilan aujourd'hui également peut-on tirer de l'action de ces pays, notamment un mois après l'acquittement de l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba, qui avait été condamné en première instance à 18 ans de prison. Vous nous appelez 33 9 693 693 70 et vous nous écrivez également par mail et aussi sur les réseaux sociaux. Mais avant cela, les questions qui vous font réagir, question d'actualité, bien évidemment, on joue encore les prolongations après cette victoire de l'équipe de France en finale de la Coupe du Monde, c'était dimanche, 4-2 face à la Croatie. Il y a un homme, notamment chez les Bleus, qui a marqué de son empreinte ce mondial et cette équipe emmenée par Didier Deschamps. Eh bien, c'est le Benjamin du groupe, c'est Kylian Mbappé, auteur de 4 buts durant cette Coupe du Monde et qui a aussi marqué lors de la finale, c'est même le plus jeune depuis Pelé, inscrire lors d'une finale du Mondial. Avec nous pour en parler, Rabiou, bonjour.
Bonjour Alexis et bonjour à toute l'équipe d'Appel sur l'actualité.
Vous nous appelez Rabiou du Burkina de Ouagadougou. Quelle est votre question?
Ah oui, voilà ma question. Permettez-moi d'abord de tirer chapeau à l'équipe de France pour cette deuxième étoile. Alors Alexis, au cours de cette Coupe du Monde, la prestation du prodige français Kylian Mbappé a été magnifique, voire splendide. Face à son compatriote Antoine Griezmann et le croate Luka Modric, j'aimerais savoir si Kylian est favori pour le Ballon d'Or.
Alors ça, on le saura dans quelques mois. Merci Rabiou. Pour y répondre, Frédéric Suto, bonjour.
Bonjour Alexis, on est là tous les jours.
Oui, c'est ça, mais c'est bien de parler foot. Là, on va discuter quelques minutes ensemble. Alors le Ballon d'Or, ce sera pour qui d'après vous? Qui a les arguments en fait les plus convaincants là?
Alors c'est vrai que Kylian Mbappé, il fait partie des prétendants après cette très très belle Coupe du Monde. Kylian Mbappé, attaquant du Paris Saint-Germain. Il n'a que 19 ans, vous l'avez dit, il a marqué 4 buts. On le compare déjà appelé, mais ce sera peut-être quand même un peu tôt. Il faut quand même rappeler les règles du Ballon d'Or. Qui vote pour le Ballon d'Or? C'est un panel de journalistes internationaux du monde entier. Vous avez 192 journalistes qui vont voter. Ce vote, il va arriver au mois d'octobre, novembre, et il prend en compte l'ensemble de la saison 2018.
Donc c'est l'ensemble des performances qui sont étalées aussi avant la Coupe
du
Monde.
Donc il y a un focus sur la Coupe du Monde, et tous les 4 ans, l'année de la Coupe du Monde, on récompense généralement l'un des joueurs qui a brillé au Mondial. Mais Kylian Mbappé, quand on regarde sa saison avant d'arriver en Russie, il jouait donc à Paris, il était arrivé l'été dernier en provenance de Monaco, il n'a marqué que 13 buts avec le PSG. Et à côté de ça, vous avez un Cristiano Ronaldo, la machine à marquer du Real de Madrid, qui est allé jusqu'au bout en soulevant la Ligue des Champions. Mohamed Salah, il n'aura pas le Ballon d'Or. Il a marqué 44 buts avec Liverpool. Il est allé en finale de la Ligue des Champions. Et avant le Mondial, on parlait de Mohamed Salah pour peut-être prétendre à ce Ballon d'Or. Donc, pour dire que là, on sort tout juste du Mondial, juste après la finale. Donc oui, Kylian Mbappé a marqué les esprits, mais il n'est pas tout seul. Il y a Antoine Griezmann. Est-ce que finalement, Antoine Griezmann, 4 buts...
Qui a remporté la finale aussi de l'Europa League.
Qui a remporté la finale de l'Europa League avec l'Atlético de Madrid. Il a marqué 2 buts en finale de l'Europa League, Antoine Griezmann contre l'Olympique de Marseille. Est-ce que lui aussi ne le mériterait pas un peu plus que Kylian Mbappé? Il a marqué 4 buts, il a marqué les pénaltys décisifs, il y a eu 2 passes décisives durant le Mondial pour Antoine Griezmann. Donc Kylian Mbappé, on peut penser qu'il l'aura dans les prochaines années, ce Ballon d'Or, mais il ne faudrait pas non plus aller trop vite. Hein. C'est un produit, même si c'est peut-être pas le terme approprié. C'est pas un produit complètement fini. Encore, hein, Kylian Mbappé.
Il y a eu des en construction.
Il y a eu des absences aussi durant ce mondial. Ouais, hein. Ouais. Il y a des matchs, notamment lors du premier tour, où il est un petit peu passé à côté. Il avait été remis en place.
Il y avait le match contre l'Australie, le match d'ouverture.
Il avait été remis en place par Didier Deschamps, qui lui reprochait de ne pas défendre suffisamment. En tout cas, ce qu'on ressent de la part des internautes, hein, tout ce qui peut se dire sur les réseaux sociaux, mais aussi de la part des journalistes et certains qui seront amenés à voter, c'est qu'il y a une envie un petit peu de tourner la page Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Parce que si vous regardez, ça fait 10 ans.
Oui, ils trustent à eux deux, tous les ballons d'or. Ouais.
Trustent tous les ballons d'or. Ils en ont 5 chacun.
Mais d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que Messi, comme Ronaldo, ont été sacrés, notamment en 2010 pour Messi, Ronaldo en 2014, quand c'était l'Espagne qui remporte la Coupe du Monde en 2010 et l'Allemagne en 2014. Donc, bon voilà, pourquoi pas Ronaldo
oui,
aussi cette
complètement,
année.
Hein, voilà. C'est vrai. Et Lionel Messi en 2010, c'était assez surprenant. C'est l'année où l'Espagne soulève le trophée avec notamment Iniesta et Xavi qui rayonnaient au milieu de terrain. Mais finalement, les votes s'étaient un petit peu répartis entre Iniesta et Xavi et ça avait fait le jeu de Lionel Messi. Idem en 2014 avec les Allemands, on aurait pu le donner à Manuel Neuer, le gardien.
Qui était sur le podium, hein, je crois.
Qui était sur le podium, effectivement. Mais Cristiano Ronaldo avait eu le dernier mot. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que la saison va redémarrer là dans un mois, la saison de club. Et ce qui va se passer en août, septembre, octobre, avec les premiers matchs de la Ligue des Champions, sera très important. Cristiano Ronaldo, il a été transféré là à la Juventus de Turin, et lui, il veut dépasser Messi, il veut un sixième Ballon d'Or. S'il démarre la saison pied au plancher avec la Juve, et Kylian Mbappé ou Antoine Griezmann ont un peu plus de mal avec leur club, ceux qui vont voter, peut-être qu'ils oublieront un petit peu ce qui s'est passé au Mondial et que Cristiano ira chercher son sixième Ballon d'Or.
Alors, juste une dernière question, Frédéric. On parlait tout à l'heure notamment de Griezmann, peut-être comme possible concurrent au sein des Bleus, mais on a Varane quand même aussi qui, lui, a remporté encore la Ligue des Champions cette année. Il en a 4 à son compteur. Et puis, son coéquipier du Real qui était en finale, Modric, lui, il en a remporté 3. Est-ce que Modric, malgré son statut de perdant en finale, ou Varane qui a peut-être été un peu moins en lumière mais qui était très solide en défense, est-ce que eux seraient des prétendants, par exemple?
Complètement, complètement. Ouais. Alors, Varane, ce qui le dessert peut-être, c'est qu'il est défenseur. Alors, c'est malheureux de dire ça, hein, mais quand vous regardez les palmarès, le Ballon d'Or, généralement, on le donne au buteur, on le donne au meneur de jeu, celui qui vraiment fait rêver toute la jeunesse. C'est vrai que Modric, lui, a de fortes chances dans cette course. Luka Modric, il a été désigné joueur du Mondial par la FIFA. Alors, il n'a pas gagné la finale, c'est vrai, il était un peu émoussé en finale, mais il a vraiment porté cette équipe de Croatie jusqu'à la finale. Il a porté le Real de Madrid. Il n'était pas tout seul, il y avait Ronaldo, il y avait cette équipe du Real, 3 Ligues des Champions d'affilée. Mais bien entendu, oui, Luka Modric a une saison bien plus complète qu'un Kylian Mbappé, qu'un Antoine Griezmann qui n'a gagné que, entre guillemets, la Ligue Europa. Vous avez aussi Eden Hazard, mais Eden Hazard n'a rien gagné avec Chelsea. Mais Eden Hazard a fait, le Belge, un très très bon mondial. Effectivement, en tout cas, ça rouvre un petit peu le débat et ça nous fait du bien de citer, d'entendre d'autres noms que Ronaldo, Messi, on n'a rien contre eux, hein, mais ça fait 10 ans que ça dure, voilà. Et à un moment donné,
place
il faut peut-être passer
peut-être.
À autre chose.
Ah ouais. Place au renouvellement, peut-être. Et puis Mbappé, vous le disiez, c'est un très jeune produit, entre guillemets, donc il a peut-être encore des années pour remporter un Ballon d'Or, 2, 3, 4, il a l'avenir devant lui.
Le Ballon d'Or pour Luka Modric, ce serait peut-être un lot de consolation pour la Croatie, hein, qui n'a pas gagné la finale. Mais bon.
Voilà, peut-être. Merci Frédéric Suto, merci d'avoir été avec nous. Il est 10h19, vos questions sur l'actualité, ça continue maintenant. Et on va s'intéresser plus particulièrement au Brexit qui interviendra le 29 mars 2019. Pour en parler avec nous, Rousseau, bonjour.
Bonjour Alexis, bonjour à tous les auditeurs.
Vous nous appelez de République démocratique du Congo, de Matadi. Alors, pour resituer très rapidement le contexte, le 8 juillet dernier, il y a le ministre du Brexit, David Davis, qui a démissionné, suivi du chef de la diplomatie, le flamboyant Boris Johnson. Tout cela, ça a provoqué une grave crise politique au sein du gouvernement de Theresa May. Quelle est votre première question, Rousseau?
Oui, pourquoi avoir remplacé le ministre Boris Johnson par Jeremy Hunt alors que ce dernier avait soutenu le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne?
Très bien, merci Rousseau, vous restez en ligne avec nous pour y répondre. Muriel Delcroix, vous êtes maintenant en direct de Londres. Bonjour Muriel.
Bonjour Alexis, bonjour Rousseau.
Correspondante de RFI. Alors Muriel, pourquoi le choix de Jeremy Hunt pour occuper ce poste de chef de la diplomatie ?
Ben, c'est avant tout tactique et c'est une mesure de sauvegarde tout simplement pour la première ministre Theresa May. La démission de ces deux ministres pro-Brexit la semaine dernière était en protestation contre un plan de compromis qu'elle avait mis au point et sur lequel elle comptait négocier avec l'Union européenne. Mais c'est un projet qui implique que Londres conserve des relations étroites avec le bloc européen. Or, les Brexiteurs ne veulent pas en entendre parler. Eux, ils veulent une rupture nette et ils considèrent le projet comme une trahison du vote des Britanniques lors du référendum en 2016. Le problème, c'est que le départ de ces deux ministres très importants a, vous l'avez dit, précipité le gouvernement dans une grave crise. Et donc, Theresa May a choisi de nommer Jeremy Hunt pour tenter d'éteindre l'incendie le plus vite possible.
Et pourtant, Hunt a fait campagne en 2016 pour que le Royaume-Uni se maintienne dans l'Union européenne.
Oui, sauf qu'il a récemment changé d'avis et il s'est rallié en fait derrière les pro-Brexit parce qu'il se dit déçu par l'approche arrogante, dit-il, de Bruxelles dans les négociations. Mais en fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'il doit surtout son poste à sa loyauté jusque-là inébranlable envers Theresa May. Et puis même s'il est ambitieux, Jeremy Hunt, c'est un homme discret et plutôt terne qui ne fera pas de vagues aux affaires étrangères. Or, c'est un ministère sensible en grand besoin après le passage controversé de Boris Johnson d'être géré de façon classique. La première ministre a d'ailleurs suivi la même logique en remplaçant le ministre du Brexit démissionnaire David Davis par un jeune député, Dominic Raab, lui aussi brexiteur pour faire bonne mesure, mais là encore il fallait quelqu'un de loyal et qui ne fasse pas de vagues. Et Dominic Raab était un bon candidat à un poste de toute façon symbolique parce que depuis longtemps, toutes les décisions sur le Brexit se prennent entre Theresa May et son conseiller Europe, Olly Robbins.
Rousseau, on vous retrouve. Votre deuxième question concernant cette crise politique au Royaume-Uni.
Oui, quelles sont les conséquences de cette démission pour le Brexit? Pourrait-on envisager un retrait?
Alors, Muriel, justement, est-ce qu'un abandon est possible? Et puis pour Theresa May, ces départs du gouvernement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça entraîne?
Ces démissions, tout comme celles de plusieurs sous-secrétaires depuis dans différents ministères qui tombent presque chaque jour, sont problématiques surtout pour Theresa May. Elles montrent que la Première ministre a complètement perdu le contrôle de son gouvernement, qu'elle n'arrive même pas à unifier autour de son projet de Brexit. Et ces départs donnent des munitions au groupe de Brexiteurs au sein de son parti conservateur, qui, bien que minoritaires, sont très puissants. D'ailleurs, depuis la publication du projet de compromis, ils ont déjà quasiment réussi à le tuer dans l'œuf lors de plusieurs votes au Parlement lundi et mardi. Le gouvernement a dû en effet accepter de changer des dispositions du projet sous la pression des Brexiteurs qui menaçaient de voter contre lui. Le gouvernement a échappé à plusieurs défaites par seulement une poignée de voix. Et ces reculs-là, du coup, ont provoqué la colère des conservateurs, eux, pro-européens, qui se sont à leur tour rebellés en votant contre le gouvernement, furieux de voir Theresa May pour eux se coucher face aux Brexiteurs. Bref, c'est un sacré bazar.
Et dans ce contexte, Muriel, est-ce que le Brexit pourrait donc être tout simplement laissé sur le côté?
Alors, il n'est absolument pas question d'un abandon pour l'instant du Brexit et la crise gouvernementale actuelle n'y changera rien. Et même si les Brexiteurs obtenaient un vote de défiance contre Theresa May, il n'est pas du tout sûr qui le gagne. Et puis surtout, son renversement ne déclencherait pas forcément des élections. Le Parti conservateur pourrait d'ailleurs choisir un Premier ministre en faveur d'un Brexit dur cette fois. Enfin, même si de nouvelles élections étaient quand même organisées et remportées par le Labour de Jeremy Corbyn, ce dernier a une position finalement assez proche de Theresa May et il a toujours dit qu'il s'emploierait à faire sortir le pays de l'Union européenne dans les meilleures conditions possibles. Pas question pour cet eurosceptique discret de renoncer au Brexit.
Alors Muriel, il y en a certains pourtant qui appellent à renoncer au Brexit et qui réclament un second référendum. Parmi eux, il y a les anciens premiers ministres Blair et Major, une ex-ministre de l'éducation ou encore l'ex-vice-premier ministre Nick Clegg.
Oui, mais même si les appels se multiplient, vous avez raison, ces derniers jours en faveur d'un second référendum pour que ce soit finalement les Britanniques qui tranchent la question. Là encore, il n'y a pas vraiment d'appétit chez les électeurs pour abandonner le Brexit. Pas pour l'instant en tout cas. En revanche, il y a maintenant un vrai risque que Londres et les 27 n'arrivent pas à se mettre d'accord avant la date de sortie du 29 mars prochain. Ce qui pourrait précipiter le Royaume-Uni et dans une moindre mesure l'Union européenne dans une grave crise économique. Et c'est pour ça que les négociateurs à Bruxelles s'impatiente parce que le temps presse. La date limite pour trouver un accord, c'est le sommet européen en octobre. Et puis après ça, il y a une dernière fenêtre qui est en décembre.
Merci Muriel Delcroix d'avoir été avec nous et donc d'avoir répondu à notre auditeur Rousseau. Il est 10h25. On va partir tout ailleurs maintenant, direction le Kenya où le gouvernement a pris une mesure, a fait une annonce récemment. Et c'est de cela dont vous voulez nous parler, Amir. Bonjour.
Oui, bonjour Alexis, bonjour à tous.
Auditeur de RFI à Libreville, au Gabon, je vous écoute.
Le ministre kenyan de l'Information a annoncé que la semaine dernière, que les zones rurales allaient avoir bientôt de l'Internet au débit grâce à des ballons stratosphériques. Quel est le mode de fonctionnement de cette innovation technologique et quelle pourrait être le retombée de ce projet sur la population?
Alors pour en parler, nous sommes avec Laure Broulard, notre correspondante à Nairobi. Bonjour Laure.
Bonjour.
Alors comment ça fonctionne ces ballons stratosphériques? Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche?
Eh bien alors les ballons du projet Loon, ce sont en fait des tours de téléphonie cellulaire volante. Hein. Alors les tours de téléphonie cellulaire, c'est quoi? Ce sont des antennes, on les appelle aussi des antennes relais, disséminées un peu partout sur nos territoires et qui relaient le réseau de téléphonie mobile et le réseau Internet, depuis le fournisseur jusqu'à nos oreilles et nos écrans. Alors à Paris, par exemple, il y a plus de 2000 antennes de ce type. Dans les grandes villes, elles peuvent délivrer à la fois du réseau téléphonique et de la 3G ou de la 4G, mais dans les zones isolées, hein, comme dans les zones rurales africaines ou alors dans les déserts, il peut y avoir des antennes qui ne délivrent que du réseau téléphonique, donc pas d'Internet, ou même pas d'antenne du tout et donc aucun réseau. Et donc l'idée des ballons Loon, hein, c'est de prendre tous les éléments d'une antenne relais, de les rendre très légers et de les accrocher à des ballons.
Et alors une fois qu'ils sont en l'air, comment ces ballons apportent du réseau à une zone bien délimitée?
Alors le signal est envoyé à partir d'un émetteur d'un fournisseur Internet local à terre. Au Kenya, cela pourrait être par exemple Safaricom ou Airtel. Puis ce signal est relayé de ballon à ballon et jusque dans les téléphones portables ou les ordinateurs des habitants. Selon le site web du projet, chaque ballon Loon a une zone d'influence de 5000 km². Le but est donc d'étendre le réseau des fournisseurs d'Internet locaux aux zones non couvertes aujourd'hui. Les Kenyans, eux, pourront s'y connecter comme partout ailleurs dans le pays et ne verront pas la différence.
Et alors, ce qu'il faut noter, Laure, c'est que ces ballons volent très très haut dans ce qu'on appelle la stratosphère. Ça paraît assez fou hein, quand même.
Oui, tout à fait. Il faut imaginer des ballons en plastique de la taille d'un terrain de tennis, alimentés à l'énergie solaire et assez résistants pour pouvoir rester 100 jours à 20 km du sol dans la stratosphère et au milieu de vents pouvant dépasser les 100 km/h et de températures pouvant aller jusqu'à moins 90 degrés. Et d'ailleurs, ces vents ont été le principal défi des ingénieurs qui ont travaillé sur le projet, car ils ont dû utiliser des modèles prédictifs et des algorithmes de prise de décision pour placer les ballons dans des courants de vent précis et apporter du réseau là où il le faut. Ils assurent en tout cas aujourd'hui pouvoir envoyer des groupes de ballons au-dessus de zones précises qui ont besoin de réseau. Et il y a déjà eu une dizaine de ballons qui ont déjà été testés au-dessus du Kenya l'année dernière. Et selon Alphabet, les vents dans la région seraient favorables à l'utilisation de cette technologie.
Et alors si on utilise ces ballons-là, ce que pourrait apporter ce projet aux habitants par exemple?
Alors, la retombée principale, c'est évidemment un meilleur accès à Internet pour la population. Les habitants du désert du Turkana, par exemple, hein, ou des zones rurales isolées, pourront surfer sur leur téléphone portable comme les autres. Le but de Google et d'Alphabet à travers le projet Loon, c'est en effet de connecter tous les non-connectés du monde. Aujourd'hui, il y a près de la moitié de l'humanité qui n'a toujours pas accès à Internet. Et en Afrique, on estime que le taux moyen de connectivité est autour de 20%. Beaucoup de grandes entreprises tentent donc de capter ce marché énorme. Et selon les représentants du projet Loon, que j'ai rencontré il y a à peu près 2 mois à Nairobi, les ballons seraient moins chers que l'installation d'antennes relais ou que l'Internet par satellite, pour les zones isolées en tout cas. Et ces ballons pourraient également apporter Internet en cas d'urgence ou de catastrophe. Ça a été le cas l'année dernière à Porto Rico, où les ballons Loon ont apporté du réseau à quelques 250 000 habitants privés d'Internet après le passage de l'ouragan Maria.
Voilà, qui devrait donc servir hein, aussi les services de secours et évidemment les sinistrés dans des zones touchées par des catastrophes naturelles. Merci d'avoir été avec nous, Laure Broulard, en direct de Nairobi. Appel sur l'actualité continue dans une dizaine de minutes. Ce sera le débat consacré aujourd'hui à la Cour pénale internationale et à l'efficacité de sa justice.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.